ouvert d'esprit, bel débouché.
Paul, on est le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation.
J'ai faim.
Et selon un nouveau sondage léger publié aujourd'hui, la majorité des Canadiens sont confrontés à des problèmes liés à l'accès à la nourriture et à l'alimentation saine. Pour en discuter, on rejoint la docteure en nutrition Isabelle Huot. Bonjour Isabelle.
Hey, bonjour à vous deux. Bonjour, quelle belle émission. J'adore ça, votre duo.
Merci beaucoup, c'est gentil. Le sondage d'aujourd'hui mentionne que 6 Canadiens sur 10 estiment ne pas toujours manger aussi sainement qu'ils le souhaiteraient. Moi, je suis là-dedans. Je pense que Paul est là-dedans également. Donc, tu manqueras pas d'ouvrage pour les prochaines années. Là. Ça va en prendre des kilos solutions pour te donner des trucs. Là.
Ah, écoute, c'est gentil. Mais en fait, c'est ça, il y a 31% des Québécois qui sautent souvent un repas. Pourquoi? Ben, soit par manque de temps ou par manque d'argent. Ouais. 72% qui mentionnent, là, selon le sondage léger, que la facture d'épicerie, ça représente une proportion importante du budget. Pour 40%, j'ai pas toujours les moyens de manger sainement. Alors, le défi financier revient souvent. Puis quand on parle Journée mondiale d'alimentation qui est soulignée dans 150 pays, on veut vraiment mettre la sécurité alimentaire de l'avant. Puis c'est quoi la sécurité alimentaire? C'est que chacun ait accès à une quantité suffisante d'aliments sains, d'aliments nutritifs. Puis quand on parle d'accès, là, c'est la disponibilité des aliments. On sait qu'au Québec, on a des déserts alimentaires qu'on appelle donc des régions de milieux socio-économiquement défavorisés qui ont un manque d'accessibilité aux fruits, aux légumes. Il y a des régions du Québec où les gens n'ont pas de voiture et il y a des dépanneurs. C'est pas toujours là où on va avoir justement les aliments les plus nutritifs. Puis le pouvoir d'achat aussi qui est manquant. Donc, c'est le temps, là, on est en pleine campagne électorale de dire, ben là, ça prend des acteurs de tous les milieux. Le gouvernement doit s'impliquer aussi pour aider les gens, les familles à mieux manger. Ouais. Ce matin, il y a un enfant sur quatre qu'on estime qu'il n'a pas déjeuné. Et ça, comme nutritionniste, c'est particulièrement inquiétant, là.
C'est sûr. Puis mal s'alimenter, Isabelle, là, on parle du prix des denrées. Là. On a l'impression d'être un peu condamné à regarder nos factures augmenter. T'sais. La malbouffe coûte pas cher, mais tout ce qui est protéines, les fruits et légumes, on fait toujours des blagues avec le céleri à 6$. Là, ces temps-ci, c'est raisonnable. Là.
Oui, ces aliments-là, ça commence à baisser le prix du céleri. Là.
Ouais, ouais.
Là, c'est des bananes qui coûtent une fortune.
C'est vrai, c'est le Journal de Québec qui nous disait ça cette semaine. Donc, on regarde ces aliments-là qui sont sains et on est obligé d'y consacrer une part plus importante de notre budget.
Bien, effectivement, puis une des responsabilités du consommateur, c'est de planifier ses repas, de cuisiner davantage, ça c'est clair, on le mentionne toujours, en cuisinant, c'est sûr qu'on peut réduire la facture du panier d'épicerie. Le gouvernement pourrait, puis on l'a abordé quelquefois ensemble sur les ondes, par exemple, taxer la malbouffe puis subventionner des programmes d'achat de fruits et de légumes, de produits laitiers, par exemple, de rendre la nourriture saine accessible, mais à prix abordable aussi. Puis dans ce contexte-là, ben moi, je suis ambassadrice du club des petits déjeuners depuis une vingtaine d'années. Quel bel organisme qui vraiment descend 1800 écoles au Canada et puis qui sert là, annuellement, on parle de 36 millions de petits déjeuners. C'est énorme, ça fait une différence dans la vie des enfants qui sont là, qui déjeunent, qui sont plus à l'écoute, ça enlève le stress aussi au niveau des parents. Et puis, je tiens à souligner vraiment les partenariats importants du Club des petits déjeuners aujourd'hui, dont Danone qui offre en fait 20 millions de petits pots de yogourt annuellement. C'est quelque chose. On a la Fédération des producteurs de pommes du Québec aussi qui fournit 250 000 pommes aux jeunes le matin qui vont à l'école, qui sont en meilleure condition d'apprentissage, évidemment, s'ils ont pris un petit déjeuner, là.
Ouais, puis tu sais, il y a clairement un aspect discipline là-dedans, là, dans le sens que idéalement le club des petits déjeuners devrait en servir zéro. Là, ils sont là pour appuyer certains milieux qui sont plus défavorisés, là. Mais ça demande de la discipline des parents. Oui, ça demande des sous, mais ça demande aussi du temps. Puis le temps pour cuisiner, souvent, c'est ce qui nous manque en fin de semaine. Là, faut barrer les cases horaires carrément. Là.
Oui, ben c'est une question d'organisation de se dire, par exemple, le dimanche, ben on cuisine les légumineuses, on l'a vu avec le Guide alimentaire canadien, mettre les protéines végétales de l'avant, de la PVT, de la protéine végétale texturée, c'est pas cher, des légumineuses, c'est pas cher, mais on a perdu un petit peu le savoir culinaire qui fait en sorte que on peut cuisiner davantage ses repas, parce que souvent les gens disent oui, mais je sais pas trop quoi faire avec ça, des légumineuses sèches, c'est beaucoup moins cher que même des légumineuses en conserve, qui encore là sont pas très chères, mais beaucoup ne savent pas les cuisiner, la PVT non plus. Donc de transmettre du savoir culinaire, puis ça passe par les jeunes aussi, donc de remettre des genres de cours d'économie familiale à l'école avec des cours de cuisine, je pense que ça ferait une génération plus en santé puis moins d'obésité, parce qu'aujourd'hui on parle du coût de la vie, du coût du panier d'épicerie, mais vendredi dernier c'était la journée mondiale d'obésité, et puis de façon paradoxale, ben les gens manquent d'argent, mais il y a trop d'obésité aussi. On parle de 25% des jeunes qui sont en surpoids ou obèses, 40% des adultes. C'est hyper important. Je veux dire, on parle de pandémie là, fait qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Puis dans les deux cas, ça passe entre autres par cuisiner davantage. Là.
Exact. Donc d'un point de vue personnel, il y a le temps qui est important, l'argent, ben il y a la question du prix des denrées, puis les connaissances, c'est aussi l'autre aspect sur lequel on peut agir pour essayer de faire en sorte que les gens mangent un peu mieux. Isabelle, j'aimerais profiter de ta présence pour te soumettre deux sujets d'actualité liés à l'alimentation aujourd'hui. D'abord, en une de la presse, on a appris que la ville de Montréal compte interdire aux géants de l'alimentation de jeter de la nourriture qui est encore comestible. Sauf que il y a déjà des supermarchés qui ont des partenariats avec des banques alimentaires, par exemple. Mais on jette encore énormément de bouffe dans les conteneurs. Pourquoi, à ton avis? Parce que c'est la solution facile?
Bien, c'est la solution facile parce qu'en même temps, je pense au programme de Moisson Montréal de récupération des viandes. Hein. Il y a tellement de viandes qui étaient jetées. Et puis, Moisson Montréal a travaillé très, très fort justement pour dire au supermarché, bien écoutez, quand il reste une journée, au lieu de le jeter, congelez-le. Parce que un des problèmes, c'est vraiment de te dire, bien là, faut que j'aille à l'épicerie ramasser ces denrées-là. Oui. Est-ce qu'on a les structures en place pour envoyer des camions partout au Québec pour récolter cette nourriture-là? Puis c'est beaucoup les épiceries qui disent, mais on peut pas s'occuper de ça en plus de gérer notre épicerie. Donc, c'est des problèmes de logistique, de coûts engendrés par le transport de ces aliments-là qu'il faut ensuite envoyer dans les banques alimentaires. C'est un projet qui est ambitieux. J'adore ce projet-là parce qu'il y a le tiers de la nourriture qui est fabriqué, qui est jeté. Évidemment, c'est beaucoup trop. Mais ce qu'on peut faire aussi, puis quelques supermarchés le font, c'est vraiment mettre les produits à rabais, mais rabais vraiment important. Là. Des fois, on voit des rabais à 50% pour des légumes moches, mais de dire, ben ce yogourt-là, il reste une journée, ben on le met à 75% de rabais. L'aliment devient accessible aux gens qui ont moins d'argent. Puis en même temps, ben tu dis, bon, ça diminue le gaspillage alimentaire, ça sert une communauté qui n'a pas nécessairement les moyens de manger du yogourt, des fruits, des légumes frais plus variés. Et on se le dit, souvent on a tendance, on regarde la date de péremption, puis on dit, bon, ben l'aliment n'est plus bon, on le jette, alors qu'on a facilement une semaine, des fois deux semaines pour le consommer. Je parle pas des fruits et des légumes, mais dans le cas du yogourt, du lait, on peut facilement dépasser la durée de vie pour le consommer, alors qu'une épicerie ne peut plus le vendre, qui est parfaitement comestible encore. Là.
Mais je me mets à la place d'un épicier, par exemple, là, qui lui utilise cette méthode. C'est-à-dire, il achète plus de ce qu'il a de besoin pour vendre parce qu'il ne veut pas avoir des étalages vides de notre côté. Le consommateur a un rôle à jouer là-dedans parce que si nous, comme consommateurs, on se dit « Ah, cette épicerie-là, là, il manque tout le temps de telle viande ou il manque tout le temps de tel produit, ça fait que j'y vais plus, je vais ailleurs », ben peut-être qu'on encourage une épicerie qui jette du super bon stock.
Ouais, c'est ça. Et effectivement, chacun a sa part de responsabilité, le consommateur, le marchand, le projet de la ville, c'est très ambitieux, mais super intéressant. Je pense que tous ensemble, on peut mettre de l'avant des mesures pour réduire le gaspillage. Je pense à la tablée des chefs aussi, qui a un programme de récupération dans les hôtels, dans les restaurants, où il y a énormément de pertes aussi. Et le zéro déchet, je pense pas qu'on y arrive, zéro gaspillage, mais de diminuer avec un effort collectif, je pense que ça, oui, on est du moins dans la bonne direction, ça c'est certain.
Puis c'est que ça risque de stimuler l'innovation aussi. On parle de partenariat avec des organismes, mais il y a des applications qui existent, je pense à Flash Food, qui permettent de mettre en ligne des aliments qui vont périmer très, très, très bientôt. Mais quand je regarde, mettons, l'offre dans la région de Québec, il y a quelques épiceries seulement qui sont là-dedans. S'ils se faisaient tordre le bras un peu par la ville, ben là, ils se sentiraient obligés. Ce serait un incitatif supplémentaire d'aller vers ce genre d'application-là, en plus de développer des partenariats,
Oui, puis je pense qu'on va en avoir de plus en plus des applications comme celle-là, puis ça peut être très, très, très utile, puis encore une fois, très pratique pour les gens qui ont moins les moyens là, de se nourrir sainement.
Oui. Isabelle, je voulais aussi t'entendre en terminant sur le dossier du Journal de Québec par rapport à l'enquête d'Océana Canada. Alors, on dit que plus d'un poisson sur trois vendu dans les épiceries et restaurants de Montréal était carrément une autre espèce que celle qui est affichée. Penses-tu qu'on est face à, dans la majorité des cas, à de la fraude alimentaire carrément, ou est-ce que même les marchands sont vulnérables là-dedans?
Mais c'est sûr qu'on a un gros problème de fraude. C'est drôle parce qu'on a fait un dossier similaire il y a quelques années, puis on se rend compte qu'aujourd'hui, je pense une enquête qui a été réalisée au mois de juillet, on est encore dans les mêmes problématiques. Ouais. Puis là, on touche le poisson, c'est sérieux, parce que bon, on vend un poisson à un prix, alors que dans les faits, c'est un poisson, par exemple, un saumon d'élevage versus un saumon sauvage. Le sauvage se vend beaucoup plus cher, mais on passe au consommateur le saumon qui dans les faits n'est pas celui qui est au prix affiché là. Puis ça, c'est le cas du poisson, mais je veux dire, il y a tellement d'autres problèmes de fraude dans le cas de l'huile d'olive, dans le cas de certains vins, dans le cas des tomates, par exemple. On a vu un cas, par exemple, on dit que c'est biologique, c'était pas nécessairement okay, le ouais. cas. Je trouve ça dommage parce qu'on manque d'inspecteurs, c'est clair, pour justement donner des amendes. Bon, est-ce que c'est nécessairement l'acheteur de l'épicerie? Je pense pas que la faute repose nécessairement sur lui, mais c'est sûr qu'il y a une faiblesse quelque part là, dans la chaîne d'approvisionnement. Et comme consommateur, quand on lit ça, ben on a comme pas confiance au système d'inspection en place. C'est sûr qu'il manque de ressources, mais la traçabilité, ça devrait être au cœur de la politique d'intervention là, du gouvernement. Là.
Puis nous, comme consommateurs, on a beau être conscients de cette problématique-là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour se protéger. Là. Une fois que l'étiquette est apposée sur le contenant, il faut s'y fier. On ne peut pas faire des contre-expertises à voir est-ce qu'on mange réellement ce qui est annoncé. On
ben,
est pogné là-dedans.
Ben non, c'est ça. Puis on l'a vu dans le cas, par exemple, dans des repas au restaurant où la personne commandait une escalope de veau puis c'est une escalope de porc parmigiana, une fois en panure avec une sauce tomate.
Ça paraît pas.
Il faut être vraiment vigilant pour être capable de voir la différence. Puis on a vu dans l'enquête, justement, qu'à Vancouver, il y avait moins de fraude. Mais moi, je mets à Vancouver, ils mangent tellement plus de poissons, ils sont plus connaisseurs oui. aussi. Donc, ça doit être plus difficile de passer des espèces, peut-être, pour d'interchanger les espèces.
Exact.
Mais en tout cas, chose certaine, moi, je pense que c'est super, super inquiétant. Et je terminerais juste pour envoyer les gens sur mon Instagram.
Oui.
J'ai une vidéo pour la Journée mondiale de l'alimentation à voir, entre autres, avec le rôle du Club des petits déjeuners.
OK, excellent. On va aller voir ça, Isabelle. Merci beaucoup d'avoir
bon.
Pris quelques minutes pour nous aujourd'hui.
Merci.
Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Bye.
La docteure en nutrition Isabelle Huot. Je reviens un peu sur l'idée de Montréal de réduire le gaspillage à la source. Nous, on a une part de responsabilité en gérant notre frigidaire, là. Mais quand on regarde les conteneurs de supermarché, tabarouette, hein.
C'est pas, ça la grosse part, là. T'sais, puis les frigidaires, à un moment donné, c'est parce que tu fais ton possible aussi. L'incitatif, il existe déjà dans le sens où si tu gaspilles moins, normalement, tu vas sauver sur ta facture d'épicerie aussi. Mais je pense que c'est surtout les épiceries qui ont des remises en question à faire. Quand tu sais que, déjà, tu sais, on vend à rabais quand il reste moins de temps pour cuisiner, ça, il y a plein de monde qui... Moi, je rentre dans une épicerie, là, puis là, je tombe en mode radar, je cherche les petites étiquettes roses, là. Là, toutes les petites étiquettes roses que je trouve, même si c'est des affaires que je mange pas, je les achète toutes, je les congèle toutes. Ma blonde est en maudit parce que le congélateur déborde. Mais moi, je suis un de ces consommateurs-là. Qu'est-ce que tu veux? J'avais un coloc qui était pareil, là. Lui, il achetait des affaires, là, qu'il aimait pas. Mais à 30%, il est congelé, puis il me dit, hey, les gars, est-ce qu'il y a un qui veut, des pilons, je demande pas de pilons, mais j'ai des bons pilons de poulet à Saint-Pierre. Puis il nous les donnait, tu sais. Fait que là, lui, là, c'était comme, il était obsédé par les étiquettes de rabais. Mais maintenant, avec les applications, comme tu le disais, Flash Food, des compagnies qui vendent des produits qui sont sur le bord de périmée, avec l'Aube-Rivière puis les autres organismes, Moisson Québec, qui ramassent de la bouffe pour la congeler, pour la cuisiner rapidement, pour faire des mets préparés après avec de la bouffe qui est sur le bord de périmée, il y a plus beaucoup d'options pour un épicier là, de tu sais, pour jeter ses... Écoute, il y a même du monde qui fouille dans les vidanges, rendu un mode de vie.
Ouais,
là,
les déchetariens, c'est ça.
C'est ça?
Oui, déchetariens. C'est comme ça qu'ils s'appellent.
T'es sûr?
Oui, ils fouillent dans les poubelles, puis ils cherchent ce qui est encore bon.
Ils ont un nom?
Oui, monsieur.
T'es sûr c'est déchetariens?
Oui, puis il me semble qu'il y avait déjà des supermarchés qui s'étaient fait pogner, là. J'avais vu ça dans une...
C'est en France, non?
Oui, ils mettaient des produits Javel, puis ouais. Justement, ils voulaient être sûrs que ces aliments-là soient pas récupérés pour que ces gens-là soient obligés de rentrer dans le magasin et d'acheter la bouffe comme tout le monde.
Le déchetarisme,
exact.
Glanage alimentaire ou... ou très ordure. Ordure.
Très ordure. On dirait que c'est toi qui as inventé le terme.
Et le fait de fouiller dans les poubelles des magasins en grande distribution et des restaurants pour extraire des aliments encore confinables. Moi, j'ai un chum qui a fait ça. En voyage. Un ami un peu cheap qui est en voyage. Je pense que c'est en Amérique du Sud, de mémoire, il y a plusieurs années. Il était pauvre. Il était parti là sur le pouce. Tu sais, c'était une espèce d'affaire un peu folle. Là. Puis, il fouillait dans les vidanges. Puis, il mangeait très bien. Il y allait d'un vidange d'épicerie. Là. Mais,
ils n'ont pas le même MAPAC que nous autres en Amérique du Sud.
Non,
là,
mais il y a des endroits où, notamment c'est comme ça en France, à Paris, tu as des endroits où ils jettent les déchets de la veille, si tu veux, ou en tout cas la bouffe.
Les invendus, ouais.
À même heure, à tous les jours, tu sais. Donc, les gens, ils savent. Puis tu as plein de sans-abri ou plein de gens qui vont aller attendre. T'sais, ils savent que c'est à 2h45 l'après-midi. Ça fait qu'à 2h30, ils se forment une file devant l'épicerie, ouais. Devant le container, si tu veux. Puis là, ben, quand ils jettent les trucs, les gens fouillent dedans pour avoir les meilleurs, entre guillemets, les meilleurs morceaux. Mais je pensais pas qu'il y avait un nom aussi fantastique que Trésordure. Trésordure. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Ah, moi, je suis comptable. Et je suis aussi trésordurien.
Trésordurier.
Trésordurier. J'ai trouvé des trésors dans les ordures. Ah, c'est de toute beauté.
Les vidanges, ça, c'est pas compliqué, les vidanges, c'est le dur dans le fond.